Mesdames et messieurs, bienvenue à Jason Ballon Rond, le tout premier podcast d'actualité sur le soccer dans l'histoire du club école. On est extrêmement heureux de cette première édition de Jason Ballon Rond. Donc, on va parler dans ce podcast-là de l'actualité de la MLS, du CF Montréal, des compétitions européennes, de la Ligue des champions, tout le soccer qui se déroule sur la planète. On va en parler ici à ce podcast et on va le faire en compagnie de merveilleux collaborateurs. Pour le moment, à l'animation, c'est Olivier Prince-Grolot et j'ai avec moi de magnifiques personnes, de magnifiques connaisseurs du soccer, Thomas Lafond, Edouard Lébrahim. Messieurs, merci, êtes-vous merci. Excités de cette première...
Ah ouais, moi, je suis hype.
Je me sens hype. Les trous hypantes aussi. Là.
Ben ouais, ah. Écoute, c'était vraiment électricien. Le poids des bras m'a levé, c'est pas compliqué.
Tant mieux.
Écoute, j'en ai des frissons.
C'est incroyable.
Ça faisait longtemps qu'on attendait un podcast de soccer au Club École. Enfin, en ce 9 novembre 2022, c'est le jour qu'on enregistre. Quelques jours, 11 jours avant la Coupe du Monde de soccer au Qatar, que cela se produit.
Deux semaines avant le premier match du Canada aussi.
Oui, tout à fait, Thomas. Toujours aussi juste. On commence très bien ça. Les gars, c'est un début de podcast, c'est le tout premier épisode de Jason Ballon Rond. Il faut dire qu'on va avoir d'autres collaborateurs dans le futur aussi, pas juste nous trois, il va y avoir d'autres qui vont essayer de faire les épisodes, on l'espère. On va essayer de viser un podcast hebdomadaire si on est capable, même pendant la Coupe du Monde. On a même abordé l'idée de peut-être faire des lives éventuellement, bref, ça va être
à
voir dans le futur.
Au retour des fêtes, peut-être, ça reste à voir, mais...
Exactement.
C'est quelque chose qui vous intéresse, fais-nous aussi.
C'est toutes des choses qui restent à voir. Les gars, c'est le premier épisode, donc on veut se pencher sur qu'est-ce qui vous attire du soccer, d'où est né votre amour du soccer et aussi quel est votre club préféré. Et on pourrait même rajouter joueur préféré. On va commencer par Tom.
Bon, écoute, ceux qui écoutent un peu les autres podcasts du Club École, qu'ils soient Retour en force, qu'ils soient aux premières loges, pendant deux roues, ou même sur réception, savent que je suis un grand fan d'Arsenal depuis facilement les 8 dernières années, un peu moins que ça. C'est ça, donc je souffre depuis longtemps. Mais cette année, ça va très bien. Donc, écoute, cette année, c'est mon année de vengeance envers tous les autres qui m'écœuraient depuis un an. Moi, ce qui m'a attiré vers le soccer, c'est la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, la victoire de l'Espagne. Dans ce temps-là, j'écoutais un peu l'impact dans le temps que c'était sur la NASL. La Coupe du Monde, ça a été un peu mon avant-goût un peu du soccer européen. Et quand l'impact a rentré dans la MLS en 2012, j'ai vraiment commencé à plus suivre la MLS, plus suivre qu'est-ce qui se passait au soccer, autant en Europe. Puis, j'ai vraiment commencé à suivre l'Europe en 2016-2017, grâce notamment à FIFA. Je m'étais acheté FIFA 17 avec mon meilleur chum sur la Xbox. On passait nos soirées au complet pendant cette année-là à jouer à FIFA. Donc, c'est sûr que ça aide à apprendre
le nom des joueurs,
des clubs. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a initié au Arsenal. Donc, chantant à Zach, merci pour la douleur que ça m'a causé.
On le salue. Et toi, d'où?
Bon, ben écoute, ma passion de soccer date de plusieurs années, date de beaucoup plus longtemps que Thomas. J'ai pratiqué le soccer durant de nombreuses années. C'est venu de mon père qui m'a amené avec lui jouer au soccer dès mon plus jeune âge. Puis par la suite, j'ai vraiment réussi à non seulement jouer au soccer, mais à gagner cette passion-là. Parce que c'est beau jouer un sport, mais si tu n'as pas la passion, à un moment donné, tu lâches facilement et tu décroches facilement d'un sport. Puis heureusement pour moi, le soccer, ça a été un sport qui m'a vraiment passionné depuis de nombreuses années, puis ça continue encore aujourd'hui. C'est pas pour rien que je suis présent ce soir. Puis, il y a FIFA également qui aide beaucoup dans cette passion-là. Il y a les matchs européens. Il y a le CF Montréal également, assez mal connu sous le nom d'Impact, malgré que c'est quand même considéré comme le surnom du club.
Ouais, on peut encore dire Impact. Gabriel Gervais l'a dit, on peut encore dire Impact.
Bref. Puis surtout, moi, c'est ce qui m'a vraiment donné cette plus grande fièvre du soccer. Je dirais c'est lors du lock-out de l'initiative d'hockey. Parce qu'il faut savoir, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment partisan fou d'hockey. Puis quand il y a eu le lock-out de 2012-2013, où que l'initiative d'hockey a été mis sur pause pendant plusieurs mois, ben, j'ai commencé à écouter plus le soccer, notamment le soccer européen, puis je suis vraiment devenu fan, puis depuis, ben, j'ai pas décroché, puis en ce moment, ben, c'est super cool. Mais moi, je dirais que ma passion pour le soccer est vraiment arrivée à partir, je pense à peu près, un peu avant Thomas, c'est arrivé à partir de l'Euro 2008, que j'ai écouté avec mon père à l'époque, j'étais vraiment jeune, mais c'est vraiment là, puis dans les jeux, surtout, c'est là que ma passion est arrivée, puis évidemment, ben, jouer au soccer, ben, c'est super le fun. Ben, j'ai une équipe, oui, on a la même équipe, moi puis Oli, Liverpool, c'est l'équipe. Moi, écoute, Liverpool, c'est une équipe avec une identité incroyable. Puis là, c'est sûr qu'en ce moment, ben, le début de saison est un peu plus difficile. Mais écoute, on va en parler plus tard. Là, mais si tu penses aux années des, mettons, début, milieu des années 2010, quand Luis Suarez était parti, puis après ça, Sterling, c'était pas des belles années non plus. Fait que c'est pas si pire que ça qu'on y pense à ça. Mais c'est ça. Puis écoute, si on parlait de joueurs préférés, moi, j'en ai deux. C'est 2 minutes de terrain. Fait que moi, j'ai quand même fixé ça envers les minutes de terrain, il faut le dire. Là. En ce moment, les gens ne le voient pas parce qu'on enregistre cet épisode. Mais en ce moment, j'ai acheté des Kevin De Bruyne, mais c'est pas lui que j'avais envie de parler ce soir. Mes deux joueurs préférés, c'est pas compliqué. C'est Andrés Iniesta, ancien milieu de terrain du FC Barcelone, international espagnol. Bref, un grand joueur de soccer. Puis le deuxième, c'est Yaya Touré, ancien international ivoirien, qui a dominé également du côté de la Première Ligue avec Manchester City. Donc, c'est vraiment les deux joueurs qui m'ont fait plus kiffer le soccer.
Donc, on voit que...
Moi, de mon côté...
Wally est resté dans le passé, en fait.
Moi, de mon côté, j'ai oublié mon joueur préféré. Mais, écoute, je vais dire que c'est Lionel Messi. Vraiment, ça a été...
Je le connais pas, c'est qui?
Léo? Ouais, écoute, c'est un joueur assez obscur. Certains l'appellent le GOAT.
Ah, ok.
Mais, ça a été ma première connexion avec le soccer européen dans ces grosses années avec le Barça 2011-2012, les années où est-ce qu'il faisait des records. Puis c'est un peu le joueur qui nous fait tomber un peu en amour avec le soccer. Donc moi, je suis fermement du client de Léo Messi dans le débat de Messi Ronaldo.
Ah, bon. Pour ma part, je suis dans le camp de Messi aussi, quoique on ne peut pas ne pas admirer l'éthique de travail de Ronaldo qui est phénoménal. Bref, moi, un peu comme Dou, je joue au soccer depuis que j'ai l'âge de 5 ans, donc ça remonte à très loin. J'ai toujours été un sportif joueur avant d'être un sportif de salon, mais rendu à l'université et tout, on a moins de temps. Je continue à jouer au soccer et au hockey tout de même, c'est important, je pense. Mais voilà, ça a commencé, l'amour du soccer est né avec la passion de jouer au soccer, premièrement. Puis ensuite, il y a eu FIFA. Le premier FIFA que j'ai eu, je pense que c'est FIFA 2013 sur la Wii, si je ne m'abuse.
Mm-hmm. Ah, ça, c'est FIFA 13, ça m'a changé de soccer. FIFA 13,
oui.
Il y a aussi l'arrivée de l'Impact à MLS en 2012. Fait que c'est que j'ai recommencé à regarder des matchs de soccer, je pense, c'est à peu près... Tu sais, moi, il faut dire que je suis plus jeune que vous deux, là. Donc, ça, je dirais que c'est vers 2012 avec l'arrivée de l'Impact. Ensuite, l'Europe, c'est venu avec la Coupe du Monde 2014. Je me rappelle, j'étais accro à la Coupe du Monde 2014. Neuer pour l'Allemagne, 7-1 contre le Brésil. C'est très bien gravé dans ma mémoire. Puis ensuite, l'Euro 2016 et tout, ça a enchaîné. Et c'est vraiment à partir de ce temps-là que... Parce qu'avant, il faut dire, je connaissais les clubs, jouais à FIFA et tout. Mais mon club, c'était encore l'Impact CF Montréal, puis il n'y en avait pas d'autres. J'achetais neutre pour le reste des clubs. Mais c'est lors de la saison 2017-2018, si je ne m'abuse, que là, j'ai vraiment eu un parti pris pour Liverpool, comme le dit Douali tantôt, avec l'arrivée de Sadio Mané, Mohamed Salah dans le club. Jürgen Klopp, qui était là depuis quelques années déjà, que c'est un entraîneur sur lequel j'ai trippé dès le début. Voilà, par son gegenpressing, sa personnalité charismatique. Toutes des raisons qui m'ont fait que je suis tombé en amour littéralement avec Liverpool, qui a gagné la Ligue des Champions ensuite en 2019, qui a gagné la Premier League ensuite en 2020, qui a disputé trois finales en 5 ans quand même. Donc, que... la Ligue des Champions, je parle. Mm-hmm. Fait que, ouais. Oui, qu'est-ce que tu disais, Tom?
Fait que toi, dans le fond, t'es un bandwagon.
Non, pas du tout. Pas du tout.
T'as commencé à y regarder quand on commençait à être...
En 2017, ils n'étaient pas extraordinaires.
Ben, 2017, l'année. Ils sont rendus en finale avec les champions, justement. 2018.
Non, c'est en 2018. 2018.
Ben, 2017-2018, c'est ça.
En tout cas, au début de la saison, quand Salah et Mané sont arrivés, gros.
C'est ça, là, oui.
Ah, non, mais... c'est ça. On a raison, Thomas. Il a raison, Thomas. Ouais,
tu dis. Non, ben, peut-être mais... big, mais.
Moi, ça allait arriver en 2007-2018, mais bref, on comprend, là.
J'étais. Comment?
On comprend, là.
Moi, j'étais juste, j'étais juste que j'avais pas de club avant de voir Salah, Mané, puis club, genre. Puis c'est ça. Mais oui, ça se peut que je sois Ben Wagon. Peu importe. Mais en fait, Ben Wagon, il switch. Fait que moi, j'ai jamais switché. Je suis resté avec Liverpool et... tout le long. Fait que bref, peu importe la division, je m'en fous. Je suis fan de Liverpool, c'est ce qui compte pour moi. Mm-hmm. Mais pour ce qui est des joueurs, présentement, il y a Mohamed Salah qui reste dans mon cœur pour ce qui est de Liverpool. Mais j'ai toujours été un très, très, très grand fan de Zlatan Ibrahimovic. Ce joueur, par sa personnalité, par son arrogance, par les buts exceptionnels qu'il a marqués, par ses gestes acrobatiques, je l'adore. Ces citations, ma foi, à la fois ridicules, mais ô combien drôles aussi. Là. Donc, pour tout ce qu'il est, Zlatan, je pense que c'est mon joueur préféré pour ce qui est de l'Europe. Et Nacho Piatti aussi, là, si on revient à l'impact, là, a marqué mon adolescence lorsqu'il était à l'impact. Bon, assez parlé de nous, là, les gars. Hein, on est là pour parler de soccer. Et on parlait de l'impact CF Montréal. Ça va être le premier sujet. Je pense qu'on va essayer de commencer. C'est sûr que pendant la saison de mort, peut-être moins. Là, mais on va essayer de toujours commencer par CF Montréal quand ça s'y prête. Donc là, le gros sujet là, entourant Montréal, c'est vraiment Wilfried Nancy. Donc le CF Montréal a connu la meilleure saison de sa courte histoire quand même. Là. Voilà, avec Nancy qui est nominé pour le coach de l'année, qui, selon moi, devrait gagner le coach de l'année, honnêtement. Là. Il n'a pas gagné, c'est vrai. C'est
non, non,
il a perdu le point, c'est vrai.
Même pas un dixième, c'est vrai. Un centième de l'entraîneur.
C'est vrai,
de
il a perdu là. Par 0.1%. Ça a été une déception pour moi, parce que, personnellement, je pense qu'il méritait. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça.
Ouais.
Voilà. Bref, Nancy a une option qui a été activée pour 2023, mais n'a toujours pas prolongé de nouveaux contrats pour des années futures, ce qu'on s'attendait à ce que Olivier Renard et Gabriel Gervais fassent directement avec la saison qu'il a connue. Ce n'est toujours pas fait et on pense vraiment que c'est à cause d'un différent à l'intérieur du club. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Jérémy Floza qui date d'hier ou avant-hier, je pense.
Ouais, mais ça avait déjà sorti avant, ça, je pense.
Ouais, ben, l'histoire est encore plus détaillée, comme quoi un match du 9 juillet contre Casey, une des rares mauvaises passes de Montréal durant la saison. Saputo, le propriétaire du club, serait descendu au vestiaire pour vous parler aux joueurs et manifester son mécontentement à Nancy et aux joueurs. Et surtout concernant la gestion des gardiens, si je ne me trompe pas. Et puis là, Nancy aurait eu des mots assez crus et même méchants, à vrai dire, à l'endroit de Saputo. Et là, c'est là que les différends seraient commencés. Saputo, on sait, là, Nancy, ça fait longtemps qu'il est au club. Saputo n'a pas toujours pris des décisions qui ont fait l'unanimité depuis le temps que Nancy est là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Nancy? Qu'est-ce qui va arriver selon vous et à quel point c'est important de ne pas le perdre? Donc, on va commencer par d'où?
Écoute, sincèrement, je vais être franc avec vous, la situation est quand même alarmante du côté de CF Montréal. De voir qu'il y a autant de différences dans les opinions entre l'entraîneur-chef et le propriétaire du club, c'est jamais bon signe dans n'importe quel sport. Puis là, en ce moment, c'est ce qui arrive. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être que Wilfred Nancy partait du côté du Crew de Columbus.
Ouais.
Mais tu sais, il est rendu là. C'est juste des rumeurs pour l'instant. Mais,
Houston aussi était dans les rumeurs, mais Dynamo. Mais,
c'est ça également. Puis, tu sais, de perdre Wilfred Nancy, qui a littéralement fait des miracles avec cette formation-là, qui, à mon avis, est une bonne formation, mais n'était pas une des meilleures formations sur le papier dans la MLS. Tu sais, j'allais dire, le CF Montréal était à quelques points du premier rang dans l'Association de l'Est, alors que clairement que l'Union Fédéfit est une meilleure équipe que le CF Montréal sur le papier, à mon avis. Mais c'est ça. Puis qu'est-ce que j'allais dire, c'est que un possible départ de Wilfred Nancy va tellement faire mal au CF de Montréal. Je vous rappelle, en ce moment, il vient de perdre Georgi Mihailovic et également Victor Wanyama qui ne reviendra pas l'an prochain. On ne sait pas ce qui va se passer dans le dossier de Ismaël Koné également, qui peut-être va partir de côté de l'Angleterre dans une équipe de seconde division. Je pense que ça devient dangereux là, qu'est-ce que CF de Montréal fait en ce moment. Des entraîneurs comme Wilfred Nancy, ça ne court pas les rues. Donc, je ne sais pas si CF Montréal est prêt vraiment à avoir autant de changements durant la saison morte, puis par la suite, OK, on va commencer avec une nouvelle équipe, puis genre, on va espérer essayer de répéter les mêmes exploits qu'on a fait l'an dernier. C'est vraiment là que j'ai un peu peur avec la situation entourant Wilfred Nancy. Là.
Ben, c'est du côté du CF, c'est pas compliqué. Wilfred Nancy, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du club. Puis, ben, oui. comme que Dou a dit, tu perds déjà Mihailovic, tu perds déjà Koné, tu perds déjà.
Koné, c'est pas encore certain.
Wanyama également. Ben, Koné, c'est pas encore certain, mais...
Il y a des très bonnes chances, ouais.
C'est presque déjà fait au Mercato cet été. Ils ont seulement manqué de temps pour qu'il y ait un deal. Je pense que c'était avec Sheffield ou Norwich, un des deux.
Ouais, les deux étaient intéressés, ouais.
Donc ça, je pense qu'en janvier, ça va être fait assez rapidement. Donc ça, du côté du CF, tu perds déjà des pièces importantes de ton alignement. Tu peux pas perdre ton coach en plus de tout ça. Puis, le CF, c'est une équipe de petit marché dans la MLS. Donc, déjà que la MLS, c'est difficile d'avoir des gros joueurs. Tu peux pas te racheter en allant chercher une vedette européenne. Oui, on a eu DC Drogba, mais c'est pas mal la seule grosse vedette qui vit à Montréal. Mettons, Higuain n'aurait pas été à Montréal, Insigné ou ben, les deux Saguenay de Toronto n'auraient même pas pensé à Montréal. Donc c'est très difficile du côté du CF de renouveler l'alignement et d'être aussi compétitif déjà là. Donc l'importance d'avoir un bon coach, d'avoir une certaine stabilité est vitale. Puis on sait que Saputo, c'est une partie du problème parce que même avec les anciens coachs, soit avec, je me souviens bien, Frank Topaz ou Marco Chalibum à l'époque, il avait fait la même chose. Il était descendu dans le vestiaire pour chialer sur les joueurs. Là, Nancy a eu le guts de
s'opposer.
Je pense que aussi Saputo est trop investi dans l'équipe. C'est bien d'avoir un propriétaire qui est investi. Mais de dire à descendre dans le vestiaire, je pense que ça dépasse la ligne.
Ouais, exactement. Je suis très d'accord avec toi là-dessus. Puis, tu sais, Nancy, ce qui est vraiment crève-cœur, c'est justement que ça soit des chicanes internes qui fait en sorte qu'ils veulent partir et que ça soit vers une autre équipe de la MLS. Tu sais, s'il y avait une offre en Europe et qu'il partait en Europe, on ne pourrait pas lui reprocher. Non, c'est bien compréhensible que tu t'en ailles en Europe, mais qu'il préfère aller dans une autre équipe de la MLS, moins prometteuse, là, comme Columbus. Ben, Columbus n'est pas si pire, là, mais comme Columbus ou Houston.
Ben, Houston, on a déjà trouvé leur entraîneur, par contre. Je pense que c'est...
Comment?
Houston, on a trouvé leur entraîneur hier.
Ah, ça se peut, oui.
C'est Randy Pendleton.
OK, voilà. Ben, d'avoir Columbus, bref, qu'il y avait plus le goût de partir et d'aller à Columbus que de rester à Montréal, un club qui, ça fait, je pense, 12 ans qui est là, qui a certainement un attachement après 12 ans, qui a un attachement envers les joueurs. Les joueurs, peut-être que Nancy serait parti si ce n'était pas des joueurs qui l'avaient retenu cet été. Donc, je trouve ça vraiment déplorable, très triste qu'on en soit rendu là. J'espère tellement qu'on voit une prolongation de contrat qui va être acceptée, mais honnêtement, je ne pense pas. Je pense que soit Nancy part bientôt, soit il va faire son année 2023 puis il va partir après. À moins que les relations s'améliorent de beaucoup avec Saputo, là, mais c'est vraiment triste de voir ça. Là. On a un entraîneur de grande qualité entre nos mains qui nous a amené à un tel niveau et puis on n'est pas capable de le garder à cause de chicanes internes et surtout du propriétaire qui est problématique. Là, puis c'est pas la première fois qu'on entend dire ça. Bon,
si tu me permets dernier point à amener. En plus, Nancy a tellement donné pour ce que là, tu te dis, il a passé 10 ans avec l'équipe, il a remplacé
12,
à 12 ans, à la dernière minute en plus, en 2021, quand Thierry Henry, ouais, il a vraiment été au service du club, il s'est donné corps et âme. Je pense que la moindre des choses que l'ECF pourrait faire, c'est de l'accommoder.
Ben, je pense pas que c'est une question d'argent ou d'accommodation. Non, c'est vraiment Nancy qui refuse.
De régler ces problèmes-là.
Oui, totalement. Puis on le souhaite pour la CF Montréal parce que sinon, il va falloir trouver un autre coach et ça serait tellement déplorable dans ce cas-là parce que la solution, c'est Nancy. C'est lui qui a bâti, qui a développé cette équipe-là qu'on a vue cette saison. Bref, on l'espère pour le CF Montréal et ses partisans. Maintenant, très rapidement, la Coupe MLS, le CF Montréal s'est fait éliminer en quart de finale il y a quelques semaines contre le New York City FC. Et finalement, New York City FC s'est fait éliminer pour contre Philadelphie. Philadelphie s'est rendu en finale de la Coupe MLS contre le LAFC. Et ça a été un des matchs les plus épiques de l'histoire de la MLS, les gars. C'était absolument fou. La semaine passée, en fin de semaine passée, la finale de la Coupe MLS. Qui a fini non seulement en prolongation, mais au tir au but, 3-3 au nombre de buts qui ont été marqués, avec une égalisation à la 120e plus 8 minutes, et Maxime Crépeau qui fait un sauvetage en même temps d'obtenir un carton rouge.
Et de ce que c'est l'action,
que des événements complètement dingues qui se sont passés. Vos commentaires sur cette partie folle, messieurs.
Ben, écoute, moi, j'ai commencé à écouter le match à la 80e.
Je suis rentré à la 60e, genre.
C'est ça. Mais écoute, je suis arrivé complètement au bon moment. C'est là que l'action a commencé. Je ne me trompe pas, c'était combien? C'était 1 à 1, je ne me trompe pas. Ou 2 à 1. 2 à 1.
Pas 2 à 1.
2 à 1, really. Ouais, 2 à 1, really.
Murillo a marqué le 2 à 1 plus tôt, là.
Ouais, puis Jack Alioff qui marque sur un corner à la 85e pour créer l'égalité. Puis là, ça va en prolongation. Crépeau qui fait son sauvetage, se blesse, le temps supplémentaire. Elliott qui marque encore. C'est fini, là, 120 plus 4. Ben non, Garrett Bale qui joue. Garrett Bale qui joue les héros en finale de la Coupe MLS. Écoute, c'est magique. Tu sais, Les Européens chialent beaucoup sur le fait que la MLS, c'est très nord-américain avec le système de séries éliminatoires et tout. Là. Mais c'est des matchs de même en finale, c'est juste meilleur avec les enjeux qui sont là.
Ouais.
Mais c'est vraiment, je pense, le meilleur match de la MLS que j'ai jamais vu. Personnellement, je sais pas si tu es d'accord.
Je pense que il y a le tout premier match de Zlatan Ibrahimovic, le El Trafico, qui est dans ma mémoire.
Ouais,
avec sa volée milieu de terrain qui est mais ça, c'était pendant la saison régulière. Fait que c'est probablement le meilleur. Ouais, probablement que c'est le meilleur. Ouais, honnêtement, ouais. Là, tu veux écrire un scénario de film, t'es pas capable d'écrire un meilleur scénario. T'es pas capable d'écrire meilleur que ça.
C'est avec des performances comme ça que tu attires des yeux sur ton produit. Non seulement aux États-Unis, mais en Europe aussi.
Ben oui,
la MLS, depuis les 5 dernières années, a fait des bons géants. En termes de visibilité, notamment avec Pulisic, avec Ricardo Pepi, Miguel Almirón.
Lorenzo Insigne qui signe pour.
Ça attire des joueurs qui sont plus nécessairement pas nécessairement des joueurs qui sont juste en fin de carrière, mais des joueurs qui vont qui cassent une étape dans leur carrière comme le gars de personne qui est à
Ricky Pouge. Oui.
Ouais. Lui, il a seulement 21, 22 ans. Donc, puis qui a encore un bon avenir en Europe. Là. Donc, c'est ça. C'est un très bon match pour la MLS.
Ouais, puis dans ce match-là, il y a eu plusieurs héros. On en a parlé. Il y a Jack Elliott qui a marqué 2 buts pour l'Union. Il y a Crépeau qui s'est sacrifié pour son équipe. Puis là, on s'est dit, bon, ben le héros final, ça va être Elliott parce qu'il remarque un autre but. Ben non, le héros final, c'est Gareth Bale qui n'a presque pas joué avec le LFC cette saison, qui était touché par des blessures. Et puis là, un peu comme en finale de la Ligue des Champions 2018, n'avait presque pas joué de l'année, n'était pas aimé par Zinedine Zidane, rentre en cours de match et vient ramasser Liverpool avec 2 buts, dont 1 sensationnel. Fait que Gareth Bale, toujours là dans les moments présents. D'où my bad, t'as pas parlé beaucoup.
Écoute, j'ai rien à rajouter à part que Maxime Crépeau s'est littéralement sacrifié pour son équipe. J'allais dire, écoute, c'est sûr que le gars était dans une position qui avait pas le choix d'aller fauter le dernier joueur. Là, j'allais dire, c'était soit ça, soit son équipe perdait sur le coup. Là, j'allais dire, il n'y avait pas le choix de commettre cette faute-là. Puis en plus de ça, ben, il s'est cassé la jambe sur le coup. Fait que ça, déjà là, tu dis que c'est encore un plus gros sacrifice. Puis là, son équipe a gagné. Mais malheureusement, Maxime Crépeau, qu'est-ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'il ne pourra pas être à la Coupe du Monde. Fait que ça, c'est extrêmement triste. T'sais, tu dis, tu passes peut-être à côté d'un
rêve. De ton rêve pour ça.
De participer à une Coupe du Monde à pour un sacrifice pour une Coupe MLS qui, oui, c'est quand même une grosse compétition de soccer, puis que oui, c'est quand même une importance capitale.
Mais la Coupe du Monde,
c'est la Coupe du Monde. T'es, je sais pas, le Canada, on va en parler plus tard, là, mais c'est la première Coupe du Monde pour le Canada depuis 86. Guys, ça, c'est 13 ans avant que je sois né. Puis je pensais que j'étais vieux, là, mais non, c'est 13 ans avant que je sois né. Fait. C'est un match sensationnel. Pour vrai, c'est le meilleur match de MLS que j'ai vu de ma vie de loin. Là.
Ouais. Pour le Canada, par contre, je pense pas que ça va avoir un grand impact. Je pense pas que Crépeau était très haut dans les fichiers. Milan Borjan est le numéro 1 contesté. Puis je pense que pour les backups, tu t'appelles Partemis puis Preza. Puis je pense que tu peux être en business de ce côté-là.
Puis la bonne nouvelle pour Crépeau, c'est que dans 4 ans, Borjan ne sera plus là. Et la Coupe du Monde va être chez lui. Donc, s'il est capable de garder le poste numéro 1 jusqu'en 2026, on lui souhaite qu'il soit le gardien partant pour le Canada à ce moment-là.
Ouais, on aurait pu avoir des matchs à Montréal, en plus.
Ouais, on aurait pu. François, si t'écoutes, il n'est pas trop tard. Ouais, en fait, il est trop tard, mais c'est pas grave.
Ouais, mais il a jugé que le soccer, c'était pas assez important. Il a jugé que c'était pas assez planétaire.
Écoute, on s'entend que le Canada, la Coupe du Monde 2022, donne un boost énorme de popularité au soccer au pays. J'ai rarement vu autant de monde qui, auparavant, ne suivait pas le soccer, commençait à suivre le soccer à cause d'équipe Canada. Qui sera en Coupe du Monde. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on vit présentement. C'est un moment historique qu'on va vivre dans 2 semaines. Puis je pense que c'est triste qu'on ne va pas pouvoir profiter de ce boom de popularité-là dans 4 ans, quand la Coupe du Monde va venir chez nous dans notre cour. Tu sais.
Tout à fait, tout à fait. Bon! Messieurs, passons à l'Europe maintenant parce que lundi, c'était les tirages pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, Ligue des Champions 2022-2023. Donc, les 8e de finale n'auront pas lieu avant l'année 2023. Donc. Mais voilà, c'est quand même des confrontations très intéressantes. Il faut dire que là, les premiers de chaque groupe peuvent seulement affronter les deuxièmes de chaque groupe et on avait de très grosses têtes. De très grosses équipes qui avaient fini deuxième. Par exemple, Liverpool, Paris, et j'en passe, là, mais
Dortmund,
bref. Dortmund, exactement, AC Milan. Voilà. C'était beaucoup de grosses équipes qui avaient fini deuxième. Donc, les confrontations, nous avons Leipzig contre Manchester City. On va passer par-dessus chacune vos impressions, vos prédictions là-dessus. Bon, Manchester City, Leipzig, tout le monde est d'accord pour Manchester City.
City, Alan va parler de comme un rouleau compresseur.
Ouais.
Écoute, j'aime bien Leipzig, j'aime bien Nkunku, Timo Werner, mais heureusement qu'il s'est blessé cette semaine, la semaine passée. Je sais pas en anglais, mais comme régénération de carrière, un peu, après son passage à Chelsea, qui était un échec. Mais écoute, devant City, ils feront pas long feu.
Tout à absolument d'accord avec toi. D'où, même chose?
Écoute, je pense pas qu'il y a de débat à avoir pour cette confrontation-là. J'allais dire, Man City est complètement tout seul. J'allais dire, aucun manque de respect face à l'équipe adverse, mais j'allais dire quand même, c'est Manchester City. Puis avec l'addition d'Erling Haaland, t'avais vraiment l'impression que City peut atteindre un autre cap. Là, donc, ça risque d'être intéressant. Mais c'est sûr que là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer au retour de la Coupe du Monde, de voir s'il y a certains gros joueurs de Manchester City qui vont être aptes à être prêts pour jouer les huitièmes de finale. Puis, je parle pas d'Erling Haaland parce qu'il n'est pas à la Coupe du Monde, mais je parle des Kevin De Bruyne, des Bernardo Silva, que ce soit Cancelo ou Kyle Walker ou Ruben Diaz, ou bref. Bon, Ederson, le gardien de but, va pas jouer, là. C'est-à-dire, Alisson Becker est en avant de lui dans les chiquets de
Brésil. Oui, bien sûr, devant lui.
Mais
il y a beaucoup de monde qui m'obstine pour dire qu'Ederson est meilleur qu'Alisson.
Non, ça, c'est absolument faux.
Alors, t'as Luca Rémy qui dit qu'Ederson est devant Alisson.
C'est faux. La seule affaire qui... En fait, Ederson, la seule affaire qui est bon, à mon avis, c'est juste au coup de pied arrêté. Mais
même Alisson est très fort, ses coups de pied arrêtés.
Oui, j'avoue que c'est...
Les ponts décisifs à Salah, là.
Ouais, même cette saison, il a fait une, encore une fois, bref.
Ouais, c'est, exact.
Contre Manchester City, justement. City, en plus.
Contre City. Ah, quel but, ça.
Donc, mais bref, pour revenir rapidement cette confrontation-là, je vais dire, si City échappe à cette confrontation-là, il va y avoir quelque chose qui cloche par rapport à Pep Guardiola en Ligue des Champions. Là, parce que vrai, c'est la seule chose qui manque à Manchester City, là, c'est une Ligue des Champions. Là.
Et avec l'arrivée d'Haaland et City qui semble. En fait, qui semble en forme, mais il faut dire à Tom, il faut se le faire, de nous préciser, de le rappeler, City n'est pas premier de Première Ligue présentement.
Non.
Peut-être que le fait qui ne soit pas premier de Première Ligue va peut-être faire en sorte qu'il excelle mieux en Ligue des Champions. Des fois, c'est ça qui se passe. Donc, peut-être est-ce que ce sera, pardonnez-moi, la première Ligue des Champions de City cette année. Bref, Francfort contre Napoli. Donc, Francfort, les champions en titre de la Ligue Europa. Et Napoli, étonnamment, qui dispute une très grosse saison, qui a fini en avant de Liverpool dans le groupe. Il faut dire qu'il était au même nombre de points, mais avec le différentiel, Napoli est passé au-dessus. Pour moi, c'est Naples qui a l'avantage là-dedans. Si on m'avait dit que c'était le Naples de l'an passé, j'aurais pas mal plus hésité. Mais avec le Naples de cette année, avec Farad Dona, là, son nom est très difficile. Dona, c'est le jeu de mots pour Maradona. Le Géorgien, Kvaratskhelia, qui est sensationnel. Victor Osimhen, qui fait du très bon travail aussi. Matteo Politano, Zambo Anguissa, j'en passe.
Le
défenseur coréen,
oui.
Son nom m'échappe, mais oui.
Ouais,
très bon boulot. Voilà. Donc, pour moi, c'est Naples, même si je salue Francfort, qui a gagné la Ligue Europa l'année passée. Je pense que ça va se finir en huitième pour eux. D'où? T'es-tu d'accord avec Naples?
Même chose, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à Naples. Je pense qu'ils sont clairement supérieurs. T'as parfaitement résumé cette équipe-là, là, qui est une équipe exactement, merci. Mais c'est une équipe qui surprend cette saison. Même avec le départ d'un cadre comme Kalidou Koulibaly, ils ont été capables de facilement pallier ce départ-là. Puis, ça risque d'être intéressant pour la suite des choses pour Naples. J'allais dire, à date, en tout cas, ils partent favoris, c'est sûr, contre Francfort, mais après ça, on ne sait jamais. J'allais dire, Francfort a quand même remporté l'Europa League en dernier, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Tom? Oui, écoute, je pense que c'est Naples sans aucun doute. Francfort, oui, c'est un bon club, mais son cachet, ça affaire vraiment, en fait, le groupe D, ça a été une sixième journée complètement folle. C'est une passée. Je sais pas si vous avez suivi un peu, là, mais
oui.
Écoute, toutes les équipes ont fait toutes les positions dans le fond. C'était assez incroyable.
Ouais.
Mais ça, écoute, je pense pas que Francfort est taille. Mais pour en racheter sur Napoli, il y a une début de saison quand même.
Ouais,
tu m'avais dit qu'ils perdent leur meilleur marqueur de l'histoire d'équipe et un excellent défenseur en Koulibaly. Puis qui sont présentement.
Et Dries Mertens.
Ouais, Mertens.
Mm-hmm. Mertens, ben, Insigné et Koulibaly.
Ouais, ouais, ben ça. Mertens, c'est le meilleur marqueur des soirées.
C'est ça. Voilà. Ouais. Puis Insigné, voilà.
Ouais, Insigné voilà, aussi. Puis qui sont vraiment à 8 points en avance de Serie A, qui ont remporté leur groupe assez facilement en Ligue des Champions. En plus, contre Liverpool. Écoute, je pense qu'ils peuvent juste continuer sur cette aire d'aller-là.
Absolument.
Grosse saison donc, de Napoli.
Ouais. Prochaine confrontation, peut-être la moins excitante, là, Benfica contre Club Bruges. Benfica a connu une très bonne phase préliminaire, donc pour moi, ce serait Benfica, mais ça peut aller dans tous les sens, j'ai l'impression, dans cette confrontation-là, mais mon choix, moi, serait Benfica.
Ouais, ben je pense que là-dessus aussi on est en accord. Là, je veux dire, Benfica a quand même terminé première de son groupe. Là, je veux dire, en avant du Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'ils ont eu le même nombre de points. Encore une fois, c'était une question de cumulatif grâce à une performance quand même extraordinaire de Benfica lors de leur dernière rencontre. Ils ont remporté 6-1 face au club israélien là, qui est Maccabi Haïfa, c'est ça là.
Maccabi
Haïfa.
Maccabi Haïfa, ouais. Merci beaucoup pour la rectification. Mais par rapport à ça, ben, ouais, Benfica, c'est une équipe qui est surprenante. Puis, c'est sûr que là, en ce moment, je pense que c'est vraiment l'équipe qui a eu le meilleur tirage. Là, j'allais dire, tomber contre le Club Bruges, je pense que c'était le choix idéal pour toutes les équipes qui avaient terminé première de leur groupe. Mais c'est ça. Fait pour acheter là-dessus, ben, juste pour dire que je pense que Benfica, là, c'est le choix logique dans cette confrontation-là, mais on sait jamais, peut-être que le Club Bruges peut nous faire changer les idées et peut-être créer une autre magie de Ligue des Champions.
Ben, Club Bruges, honnêtement, a été un des clubs les plus sous-estimés, selon moi, de
cette phase. T'es Jim Buchanan, le Canadien.
Ouais, Buchanan. Ont perdu également. J'ai perdu son nom, mais c'est CDK. Lors du Serie Mercato. Puis ils réussissent à éliminer l'Atlético Madrid et Leverkusen. Ouais. Il n'y a pas un groupe super facile non plus. Je pense que oui, on rit, mais tu peux, je pourrais causer la surprise.
Ouais, mais
je
ne
serais
oui.
pas surpris de voir ça.
Certainement qu'ils peuvent causer la surprise. L'Atlético Madrid a très mal paru face à eux.
Ouais, moi, écoute, je ne serais pas surpris d'avoir que passer. C'est mon hot take.
OK, donc tu y vas pour Club Bruges avant Benfica.
Oui.
Wow! On aime.
Intéressant. Bon, là, ça devient très, très intéressant, les prochaines confrontations. On passe à Dortmund contre Chelsea. Très intrigué de vous entendre là-dessus. On commence par d'où?
Là, par contre, j'allais dire, normalement, si tu m'avais demandé ça au début de la saison, je t'aurais dit Chelsea. Mais là, ça risque de serrer parce que là, en ce moment, c'est ça. Chelsea, c'est pas hyper convaincant depuis le début de la saison. J'allais dire, on le voit en première ligue. Là, c'est pas le début de saison escompté de Popo Chelsea qui, je vous rappelle, un nouvel entraîneur. Puis en ce moment, je pense pas que. Honnêtement, je ne sais pas encore. Je pense que je vais aller avec Chelsea, mais j'ai vraiment l'impression que ma tête me dit d'aller avec Dortmund juste parce que Chelsea est tellement incertain dans cette formation-là en ce moment. Puis il y a encore le même problème qu'en début de saison. J'allais dire, ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant de pointe. J'allais dire, ils ont
Aubameyang, mais.
Aubameyang n'est pas mauvais, mais c'est pas la solution à long terme pour Chelsea. Là. J'allais dire, ils n'ont pas été capables de remplacer quelqu'un depuis. Puis là, je vais remonter à quelques années déjà. Mais j'ai l'impression que depuis Diego Costa, là, Il n'y a aucun attaquant de Chelsea qui était capable de s'imposer. On peut penser à Alvaro Morata, à Timo Werner,
Higuain.
Higuain. Giroud, ça n'a pas marché. Giroud, ouais, mais Giroud, c'est pas de.
Giroud, ça n'a jamais été une solution permanente.
Moi, non, c'est jamais sûr, mais on l'a quand même essayé, tu sais.
Puis c'est ça. Puis évidemment, ben, le dernier, c'était Romelu Lukaku qui est retourné du côté de l'Inter de Milan. Donc, je pense que c'est vraiment là le problème. Tu sais, qu'il manque une attaque. Puis on dirait que comme tu as plusieurs joueurs de talent, on dirait qu'il n'y a pas de collectif autour de ces joueurs-là. Tu sais, je parle des Mason Mount, des Raheem Sterling. J'oublie tout le temps le nom de ce joueur, de ce lien-là de Chelsea qui est hyper rapide.
Pulisic? Pulisic?
Pas Pulisic, mais il y en a un autre. Là. Mon nom va, son nom m'échappe, mais je
Reece James?
Non, Reece James est blessé. Reece James est blessé, c'est latéral. Il est latéral, de toute façon, latéral droit.
Tu cherches qui, là?
Un allié rapide de Chelsea.
Ouais, mais pas Raheem Sterling. Non, mais bref, je vais revenir là-dessus. Mais,
Connor Gallagher.
Oui, je pense que c'est lui.
Ouais, il a connu une très bonne saison l'année passée avec Palace.
Ouais, mais il est bon cette année aussi.
Il a très bon.
Un des points positifs de Chelsea.
C'est ça. Puis en ce moment, ben, là, il a blessé de N'Golo Kanté, fait extrêmement mal aussi du côté de Chelsea. Mm-hmm. Fait que ça aide pas. Mais là, on parle de ça. Ça va être dans genre. On parle des huitièmes de finale qui vont avoir lieu dans 2 mois.
En février,
là, même plus que 2 mois. Là. Ça reste, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Puis, il faut se rappeler, si on regarde les deux seules fois que Chelsea a remporté avec des champions, bien, ça va être des entraîneurs qui sont venus en cours de saison. Donc, peut-être qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça va être. Je ne sais jamais 203, hein, comme on dit.
Non.
Il fallait que Chelsea pour.
Moi, j'y crois pas. Moi, pour moi, Chelsea, personnellement, je les aime pas, premièrement. Je pense que le changement d'entraîneur les a brusqués un peu. C'est sûr que c'est en février. Ils ont amplement le temps de se replacer. Là. On va y revenir à Jason Ballon en
temps de milieu.
C'est ça. Mais pour l'instant, là, je ne vois rien du côté de Chelsea qui me permet de croire en eux. Tandis que pour Dortmund, j'aime bien l'équipe de Dortmund, Jude Bellingham. Est un joueur exceptionnel. C'est sûr qu'en attaque, on se cherche un peu au niveau des avancantes. Il y a Moukoko, le très jeune Moukoko qui surprend. Sinon, Anthony Modeste a été ennuyé par des blessures. Karim Adeyemi a de la misère à s'imposer un peu. Mais j'irai quand même avec Dortmund parce que Chelsea ne me convainc pas. Mais ça peut très bien changer. Toi, Tom, Chelsea, Dortmund?
Écoute, c'est un choix assez difficile, mais je veux dire Chelsea. J'aime bien leur campagne. Je sais que ça a mal commencé, mais depuis l'arrivée de Graham Potter, ça va beaucoup mieux. Gagné 2 fois contre Milan d'ailleurs. Dortmund aussi ont pas connu une mauvaise campagne. C'est du côté de Chelsea, si on parle. Oui, l'adaptation se fait difficilement. Mais avant avoir la Coupe du Monde pour se reposer, soigner les blessures, notamment travailler sur le collectif. C'est jusqu'en février, ils ont le temps de se replacer. Puis, ils vont peut-être aussi aller chercher un attaquant de pointe qui manque en janvier, on ne sait jamais. Ça pourrait être un peu le chaînon manquant de ce côté-là pour Chelsea, qui va faire la différence. Mais écoute, je suis enclin à aller faire Chelsea. Mais je pense pas que ça allait plus loin que grand final.
Ah, by the way, j'ai trouvé la réponse que je cherchais. C'est Armando Broya. C'est lui que je cherchais.
Il est avant-centre, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça, il est avant-centre, mais bref.
Il est pas lié,
c'est lui que je cherchais qui est hyper rapide du côté de Chelsea. Mm-hmm. Mais bref, c'est ça.
C'est quand même plusieurs minutes de jeu, ouais.
Mais ça reste intéressant, mais bref, vous pouvez continuer dans qu'est-ce que.
Ouais, mais en fait, on était rendu. C'est le premier, en fait, qu'on est tous en. Ah non, c'est vrai. Mais Thomas avait dit Club Bruges pour Benfica. Mais voilà, on a 2 Chelsea et 1 Dortmund ici. Mm-hmm. Maintenant, ça aussi, j'ai bien hâte d'entendre vos réponses parce que c'est pas évident. Liverpool, Real Madrid, messieurs.
Oh my God.
Ouais. Je pense que je vais commencer.
Ouais, vas-y, Dou, vas-y.
Ouais, mon cœur dit Liverpool, ma tête dit Real Madrid. Je pense que pour vrai, que le début de saison que Liverpool a. Puis si on regarde la formation du Real Madrid cette saison, pour vrai, puis on l'a vu, je l'avais montré à statistique que le Real Madrid n'a pas été capable de battre, Liverpool n'a pas été capable de battre le Real Madrid depuis 2009. Oui, ok, ils sont juste affrontés 4 reprises, mais genre, ça ne change pas grand-chose. J'allais dire, Moi, pour vrai, je pense que les deux équipes peuvent gagner, mais je donne l'avantage au Real Madrid juste parce que cette équipe-là, historiquement, je sais pas combien de fois que j'ai été contre le Real Madrid, puis ils ont toujours trouvé un moyen de gagner. Juste l'an passé, j'allais dire, juste leur parcours, là, c'est un parcours qui est unique là, quand on pense à celui du Real Madrid. Se faire dominer en huitième de finale, passer, se faire dominer en quart de finale, surtout match retour, ils passent. Demi-finale, il n'y aurait jamais dû battre Manchester City autant au match aller qu'au match retour. Et voilà. Ils ont quand même trouvé un moyen. Puis même face à Liverpool, alors que Liverpool avait quand même connu un bon match. Ben,
Liverpool a eu le meilleur dans cette game-là, mais quand même. Thibaut Courtois, les arrêts. Mm-hmm. Les arrêts exceptionnels. Puis Vinicius Junior qui réussit à marquer contrairement à Liverpool.
Mais c'est ça. Mais puis la seule raison pourquoi aussi j'ai l'impression que Liverpool a peut-être moins de chances que le Real Madrid, c'est vraiment au niveau des blessures. On l'a vu cette saison, là, ça fait mal là, aussi les nombreuses blessures. Là, on voit que du côté de Liverpool, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent, mais là, avec une Coupe du Monde qui arrive, avec le noyau de remplaçants de joueurs du côté de Liverpool qui est assez moyen, ben, là, il y a vraiment des questions à se poser là, du côté de Liverpool. Mais aussi, quand on parle des blessures, ça aussi, ça peut considérer. On peut aussi dire la même chose du côté du Real Madrid parce que là, tu as des joueurs qui vont avoir des rôles importants dans leur équipe respective. Que ce soit Karim Benzema en équipe de France, que ce soit Vinicius du côté du Brésil, Thibaut Courtois avec la Belgique ou même Antonio Rudiger du côté de l'Allemagne. Bref, c'est probablement la confrontation à la Ligue des Champions la plus intéressante de tous les matchs de huitième de finale. Puis de
loin, il y a un certain PSG-Bayern qu'on va parler tantôt, mais oui.
Bref, je préfère mieux cette confrontation-là.
Donc, Real pour toi?
Oui, je pense que c'est Real Madrid.
Moi, de mon côté, je vais y aller Liverpool. Même si Real peut très bien faire masser. Mais je pense que Liverpool, ça va être l'équipe qui va bénéficier le plus de la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont besoin d'un break, besoin de se recentrer.
Il y a des blessés, Diogo Jota, entre autres.
Il y a des blessés. Puis écoute, je pense que vous savez que ça va très mal en Premier League. Je pense que le break va leur faire du bien. Question de se recentrer, puis de se défaire de cette énergie négative. Je pense que s'ils réussissent à passer le Real, attention, parce que le reste, la saison, qu'ils soient en FA Cup, en Premier League, en Ligue des Champions, ils vont être extrêmement dangereux s'ils passent au Real. Je pense que ils ont l'effectif pour être capable de le faire. Puis le Real, on ne se cachera pas. Ils sont légèrement. Ils commencent à être vieux aussi. C'est le même aussi l'année passée. Mais encore plus cette saison. Puis je pense que ça peut venir leur jouer des tours, soit avec la Coupe du Monde, les Modric qui va être là, Benzema qui va être là, Toni Kroos qui va être après sa retraite avec l'Allemagne, je ne sais pas, ou prendre sa retraite après la Coupe du Monde internationale.
Tout comme Modric.
Ouais, c'est plus des genoux. Donc je pense qu'ils vont peut-être manquer de gaz rendu en février. Ça reste à voir, mais je pense que Liverpool va profiter de ça. Pas
surréal. Mais j'aime ta réponse. Étant fan de Liverpool, j'aime ta réponse. Mais je vais y aller avec l'autre fan de Liverpool, je vais y aller avec le Real. Peut-être parce que justement, je me fais pas d'attente, je vais être plus content s'il gagne.
Ça fonctionne pas, je peux te le garantir. Je l'ai fait pendant le printemps, puis ça fonctionne pas.
Ouais, ça fonctionne pas toujours, c'est sûr. Non. Bref. Le Real, c'est le Real avec la performance qu'ils ont livrée l'année passée, comme Dou l'a dit. Je pense qu'ils vont être capables d'avoir le meilleur sur Liverpool. Liverpool, pas la meilleure saison, on l'a dit tantôt. Donc c'est pour ça que je penche vers le Real Madrid, mais c'est encore dans très longtemps. On ne sait pas que ça va être quoi le contexte rendu en février. Maintenant. Donc, on est à 2 Madrid, 1 Liverpool pour cette confrontation. L'Inter Milan contre le FC Porto. Moi, je vais y aller tout de suite pour ma part, ça va être Inter Milan, même si Porto peut surprendre, c'est sûr et certain, avec un autre Canadien dans ses rangs, Stéphane Eustachio. Exact. Mais je vais y aller avec Milan, même si Milan, pas une, c'est la saison escomptée en Serie A. Je crois quand même que c'est ça. Ils vont avoir les dessus face à Porto. Puis là, messieurs, je m'excuse tellement, là, mais vous me voyez shaker, j'imagine, depuis tantôt. J'ai encore envie. Fait que je vais vous laisser parler de l'Inter puis de Porto, puis je reviens. My bad.
Ben écoute, je peux prendre le lead en entendant, là, c'est incroyable.
Ben, c'est ça, parler de l'Inter puis de Porto.
Je pense, c'est ça. Ben écoute, Tom, écoute, le point, c'est que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça.
Je ben ça, c'est un match-up assez, assez simple. Je pense que l'Inter va s'imposer assez facilement. J'aime bien Porto, ils ont un effectif intéressant, mais je pense que l'Inter est vraiment l'équipe supérieure. C'est ça. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. De ce côté-là, je sais pas si t'avais d'autres choses à dire.
Non, mais non, j'ai pas d'autres choses à rajouter, mais par contre, on peut parler. Il nous reste encore, je crois qu'il reste deux confrontations.
Ouais, je pense qu'on va attendre. On va attendre que Ali revienne avant de parler du gros match-up que tout le monde attend.
Mais c'est ça, mais au pire, on peut commencer avec celui entre Tottenham puis l'AC Milan. Thomas, pour toi, qui va remporter cette confrontation-là? C'est quand même une confrontation assez intéressante. Là.
Ben écoute, mon cœur me dit AC Milan, ma tête aussi. Parce que, écoute, je dis ça de la manière la plus objective possible. Tottenham n'a pas une bonne saison. Oui, ils sont troisième en Premier League, mais tu regarderas le résultat face à des équipes du Big Six, ou même face à des équipes de place européenne, je pense, de Brighton également, je pense qu'ils n'ont aucune victoire. Il faudrait que je vérifie, là. Mais dans les équipes du Big Six, ils n'ont aucune victoire, et dans la Ligue des Champions, ont profité du fait qu'ils étaient dans le pire groupe de l'ADC pour passer premier. Je pense que Milan va faire et tout simplement trop complet. En plus que là, Zlatan va revenir. Donc c'est clairement ce qui va faire la différence. Mais ça, Milan devrait passer assez facilement devant Tottenham. Tottenham a juste trop de problèmes défensivement. Ouais. C'est pas fameux. Emerson Royal, je sais pas ce qu'il fait encore dans l'alignement, honnêtement, c'est un des pires défenseurs de la Premier League, là, facilement. Et bien, c'est ça. C'était ma chronique objective sur Tottenham.
C'était fort, man.
Et on parle d'un fan d'Arsenal ici.
Ouais, mais écoute. Exactement. Tu viens pas me dire qu'il y a un personne royale d'un bon défenseur.
Non, mais non. Non,
je t'en ai absolument pas.
Mais, tu sais, Davinson Sanchez.
Ouais, Davinson Sanchez est bon, mais il commence à faire vieux, là.
Oui, mais pour le moment,
il est 22. Il a 26 ans. Il a 26 ans.
Moi, 32, tu parles.
Ouais, c'est vrai. Il est pas vieux, David Sanchez.
Il est pas vieux, David Sanchez.
Là, Tottenham Hater, c'est correct. On va se calmer.
Ouais, c'est correct. Moi, tu vois, Thomas, j'aimerais dire que moi, personnellement, je vais aller contre toi. Je pense que s'il y a une surprise, c'est bien là, mais c'est pas tant de surprise, mais je vais aller avec Tottenham. Je crois en Tottenham. Je crois que Tottenham va être porté par Heung-Min Son, qui va être capable d'enfin délivrer quelque chose qui a de l'allure du côté de Tottenham. C'est sûr qu'il y a beaucoup de lacunes du côté des Spurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas été excellents en Première Ligue, tu l'as mentionné. Là, j'ai dit, surtout ça, tu avais amplement raison. J'ai dit, Tottenham a vraiment pas été fort contre ou surtout convaincant face à des équipes du top 6 de la Premier League, là, c'est vrai, mais j'allais dire, face à la Similar, j'ai l'impression que la Similar, des fois, manque un peu de jus, dépendamment des moments. Vrai. Puis, juste par ça, je crois que Tottenham peut espérer se qualifier pour les quarts de finale, mais j'ai vraiment l'impression que cet affrontement-là, là, ce match aller, match retour, j'ai l'impression que ça peut se rendre en prolongation au match retour. Mm-hmm. J'ai vraiment l'impression. Ça peut se rendre jusqu'à la limite. Je pense que c'est ce genre de confrontation-là qui pourrait nous amener vers une limite, prolongation, voire peut-être sur au but. Fait que ma prédiction, c'est Tottenham pour cette confrontation-là.
Mais avant de me prononcer, est-ce que vous avez tous dit Inter Milan au dernier?
Oui.
Oui.
D'accord.
Ouais.
Donc, AC Milan Tottenham, je trouve que c'est un des plus difficiles à départager parce que Oui, Tottenham a des lacunes, mais AC Milan a de la difficulté constamment en Ligue des Champions. Là, même si l'année passée, ils ont connu une très bonne saison en Serie A, ça n'a pas été le cas du tout en Ligue des Champions. Puis tu as parlé de Zlatan, Tom, mais il me semble que Zlatan n'est pas dans la liste de Pioli pour la Ligue des Champions. Fait que,
ça se pourrait, là, moi, je suis juste qu'il revient en. Qui revient en décembre ou en janvier de son ici.
Mais il y a 41 ans aussi, là. Mais je sais que c'est Zlatan, là. Mais il y a 41 ans, guys. Genre, faut pas s'attendre de miracle.
Ouais, mais c'est Zlatan.
C'est Zlatan, je suis d'accord, c'est Zlatan, mais je pense qu'il jouera même pas la Ligue des Champions parce que je pense qu'il n'est pas sur la liste de Pioli. Écoute, je vais aller avec Dou encore, puis aller avec Tottenham, mais. Je pense à Heung-Min qui va être de retour au jeu. Harry Kane. Faut pas sous-estimer Harry Kane. Là. Oh.
Non, t'inquiète.
Harry Kane, c'est encore aujourd'hui, selon moi, un des meilleurs strikers, permettez-moi le mot, du monde, honnêtement. Je pense qu'il est sous-estimé avec Heung-Min aussi qui l'appuie. Kulusevski qui est très bon. On a Pierre-Émile Højbjerg, qui est un milieu de terrain que j'adore du côté de Tottenham. Très solide.
Jeune ami.
Donc, comment?
Jeune ami.
Oui, voilà. Donc, puis l'AC Milan, c'est une équipe que j'adore aussi, Raphaël Léao. Mais, tu sais, Giroud, qui est très bon dans les dernières semaines, là, ça l'a aidé à se faire sélectionner pour l'équipe de France, je pense. Là, mais j'ai de la misère là, à le voir... constant sur toute une saison en Ligue des Champions, surtout après une Coupe du Monde qui va peut-être l'avoir fatigué.
C'est ça qui est plate pour Giroud. Tu sais, oui, c'est le fun qu'il soit encore en équipe de France, mais il n'y a plus de gaz. Il va plus avoir
de gaz. Il n'y a plus de gaz. En ce moment, il y a du gaz dans ta barouette.
Mais c'est une saison complète.
Ouais.
Il va manquer de choix à maintenant.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça me fait dire que si la défense de Tottenham est capable de tenir, je pense que du côté de l'attaque, ça va aller en faveur de Tottenham. C'est pour ça que je vais y aller avec Tottenham dans cette confrontation. Ce qui nous fait deux Tottenham, un AC Milan. Voilà.
Vous faites juste vous décevoir, les boys.
On sait ce qu'on verra en février, Tom. Alors... ce qui nous laisse avec le dernier, la dernière confrontation, voilà. J'aime les surnommer affectueusement les Leafs du soccer, le Paris Saint-Germain qui gagne beaucoup de Ligue 1, bravo à eux, mais qui en Ligue des Champions ne sont pas capables de se rendre loin malgré qu'ils aient un effectif papier absolument fou.
À leur défense. Ils sont pas chanceux dans le tirage. L'année passée, ils pognaient Real Madrid. Il y a 2 ans, ils ont eu Barça. Barça puis Bayern. Ils sont passés par-dessus. Ils n'ont pas eu des tirages faciles dans les dernières années. Il ne faut pas se les cacher non plus.
C'est vrai. Mais une équipe qui détient Neymar, Messi, Mbappé, qui détient Gianluigi Donnarumma, qui détient Marquinhos, Kimpembe, Ramos, Hakimi, Verratti. Je pourrais continuer de même, mais je pense que c'est le meilleur effectif sur papier là, et monétairement aussi du monde entier.
Non, c'est non. Qui, monétairement.
Ouais, je pense
que... Ouais, mais c'est parce que... C'est, ok, peut-être. Mais monétairement, en termes de salaire ou de transfert?
En termes de transfert.
En termes de salaire, pas mature, c'est le PSG. Là.
Ouais, sûr, mais en termes de...
Messi, Neymar, Mbappé, là. Pas mature,
en termes de valeur de transfert, c'est...
Ouais, OK. Mais je pense ça. Moi, je parlais de salaire. Tu sais, le PSG n'a pas d'excuse de choquer à chaque année comme ça. Je comprends qu'il y a des tirages difficiles, mais là, la comparaison avec les Leafs de Toronto se tient très bien pour moi parce que à un moment donné, après autant d'années que tu ne réussis pas. Bon, ils se sont rendus en finale en 2020. Mais ça prend un titre, là. Surtout avec un effectif comme ça prend un titre. On va continuer à rire du PSG tant et si longtemps qu'ils font juste rapporter des Ligue 1. Ça leur prend une Ligue des Champions. Est-ce que ce sera cette année contre le Bayern? Moi, je dis qu'ils portent le Bayern. Honnêtement, moi, je dis qu'ils portent le Bayern.
Non. Ben, vas-y.
T'es pas d'accord avec moi?
Non, non, mais vas-y, continue. Non, non, je ne suis pas d'accord, en effet, mais vas-y.
Mais ouais, avec la perte de Lewandowski du Bayern, c'est vrai que Thomas Müller a fait un autre message sur Instagram. Ça peut vraiment brouiller les cartes, ce genre de message-là. On l'a vu par le passé. Quand Müller rit de ses adversaires. Mais c'est ça. J'ai l'impression que l'attaque du Bayern est diminuée avec Lewandowski qui n'est plus là. Bon, c'est vrai que Choupo-Moting excelle présentement, mais je pense pas que ça fait la solution. Il y a toujours un Leroy Sané, des commandes, des Gnabry qui peuvent apporter quelque chose. Mm-hmm. Mais là, je pense qu'avec un Messi qui est en très grande forme, un Neymar qui est en très grande forme, un Mbappé qui va bien, même s'il pourrait peut-être faire mieux, mais il va quand même bien. Pas trop de blessés jusqu'à maintenant pour le PSG. C'est sûr que ça pourrait changer d'ici février. Je pense que le PSG n'a plus d'excuses et va assumer ses responsabilités et gagner contre un Bayern qui est moins bon que l'année passée, à mon avis. Donc, j'y vais pour le PSG. Je pense tout de même qu'ils vont finir par choquer contre une équipe ou une autre, mais je pense qu'ils vont passer le Bayern.
Écoute, moi, je suis tellement pas d'accord là-dessus. Je pense que le Bayern, c'est une machine de soccer tellement bien huilée.
Je suis d'accord.
C'est l'équivalent un peu des Russes 570.
C'est vrai que leur milieu de terrain, Kimmich, Goretzka, est fabuleux. Moussiala.
Ouais, ça doit faire, je ne sais pas combien d'années que ce club-là joue ensemble. Le Lewandowski est parti. Il a cherché Mané pour le remplacer. Là, Mané va manquer à Coupe du Monde, mais va être quand même pour le retour.
Mané va manquer pas nécessairement toute la Coupe du Monde.
Que le Sénégal se rend à la finale, là.
Non, mais c'est 3-4 semaines, j'ai vu Mané. Fait que ça pourrait être là pour les 8e ou les quarts.
Ouais, mais ça m'étonnerait que le Sénégal se rende encore, mais bon, écoute ça.
Ça pourrait, non, Sénégal.
Sénégal pourrait.
Le
club sous-estimé. Ouais, sous-estimé, à mon avis.
Meilleur club d'Afrique.
Écoute, on s'en reparlera plus tard. Bayern, honnêtement, c'est une machine tellement bien visée. Je pense que je vois pas comment ils peuvent perdre. Encore cette année, vraiment, c'est je pense que c'est mon club pour l'emporter avec City. C'est deux clubs que je vois juste pas perdre. Même si PSG ont un trio d'attaque sensationnel, même si ils ont un excellent alignement sur papier, je sais pas, il y a quelque chose au PSG qui me dit qu'ils vont finir par choquer.
Comme à chaque année. Les huitièmes de finale. Je pense que ça serait juste trop catastrophique que c'est pas possible, genre.
Ben, parce que Bayern,
je peux me tromper, c'est sûr, je peux me tromper.
Je sais pas s'il y avait eu, je sais pas, l'Inter. N'importe quel club que le Bayern a fait, à part le Real ou City, il aurait pu passer sans aucun problème.
Dans le fond, tout le monde sauf trois clubs, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Tout le monde sauf trois clubs, il aurait pu passer sans problème. Là,
ouais, c'est ça. Tout le monde sauf presque la moitié du monde.
Ouais.
Bon, donc d'où j'en comprends que t'es team Bayern aussi.
Moi, je pense même pas que le PSG a une chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette équipe-là a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Je suppose, parce que moi, j'ai regardé à quelques reprises les rencontres du Paris Saint-Germain cette saison, puis pour vrai. J'ai l'impression que quand Lionel Messi n'est pas à 100%, ce club-là n'a pas de créativité dans leur jeu. C'est juste ça. Ça me fait penser un peu comme à l'époque où que Messi est transporté l'FC Barcelone, l'après Xavi Iniesta, là, où que le jeu était vraiment centré autour de Lionel Messi. Ben, c'est ça qui arrive en ce moment. Là, tes attitudes de Kylian Mbappé et ses problèmes d'attitude qu'on ne sait pas ce que ça va amener. Il y a toujours une lacune importante au milieu de terrain parce que je veux dire, si tu as Verratti qui est bon un match sur cinq, puis qu'après ça, ton milieu de terrain, c'est des Danilo Pereira, Vitinha est bon, Fabien Roux fait un bon travail. Oui, il est bon, mais quand tu arrives face au milieu de terrain du Bayern de Munich,
ouais,
t'as besoin d'avoir un joueur de la trempe des Goretzka ou de Joshua Kimmich.
À part le milieu de terrain, le PSG a l'avantage.
Ouais, ben j'allais dire pour le reste, c'est sûr, mais tu sais, j'allais dire aussi une autre détail qui est hyper important, puis ça, les gens ont tendance à l'oublier, il y a une Coupe du Monde qui arrive. C'est la dernière Coupe du Monde de Neymar, c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Ces deux gars-là vont tout donner à la Coupe du Monde. Fait que je ne sais pas quand ils vont arriver dans quel état au mois de février. Est-ce qu'ils vont être toujours autant concentrés? Est-ce qu'ils vont être capables d'autant bien performer que lors de la Coupe du Monde? C'est là que ça reste à voir. Surtout que l'Argentine et le Brésil, on va en parler un peu plus tard, c'est deux équipes qui peuvent se rendre très loin durant la Coupe du Monde. Donc là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer du côté de Paris Saint-Germain. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que si tu regardes le Paris Saint-Germain, il y a toujours un manque de collectif qui fait en sorte que cette équipe-là ne peut pas se rendre jusqu'au bout. Puis il vient encore de prouver. Puis ça a été prouvé il y a très longtemps. On remonte à l'époque du Galactique aux côtés du Real Madrid là, avec les Luis Figo, les Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham. C'est pas parce que tu entoures une équipe avec beaucoup de vedettes que ça veut dire que tu as un collectif qui va te permettre de gagner. C'est ça qui manque en ce moment au Paris Saint-Germain, c'est le collectif. Puis ça, j'allais dire, le Paris Saint-Germain a toujours eu le même problème, c'est le milieu de terrain. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions si t'as pas de milieu de terrain. Puis le Paris Saint-Germain, à part Marco Verratti, il n'y a pas un grand monde. En tout cas, de niveau de classe mondiale, comme mettons Bayern, à Man City, au Real, ou même à Liverpool aussi, à l'époque où Liverpool, il y a des dernières années où Liverpool...
Ils ont encore un meilleur milieu que le PSG, le Fabinho.
Oui, le milieu de terrain de Liverpool est meilleur, qui est super à celui du Paris Saint-Germain. Bref, fait que moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que le Bayern Munich, normalement, là, s'ils sont capables de rester concentrés, devraient pas avoir de problème à battre le Paris Saint-Germain. C'est sûr que le Paris Saint-Germain, cette saison aussi, ça a été un peu... ça n'a pas été facile non plus à la Ligue des Champions. Là, fait que ça risque d'être intéressant. Mais moi, je prends le Bayern Munich pour remporter, puis je pense que c'est beaucoup moins serré que ce que les gens pensent.
Ben, c'est des bons points que tu apportes. C'est vrai que le milieu de terrain est extrêmement important, que le fait que ce soit la dernière Coupe du Monde de Messi et Neymar qui vont tout donner, qui vont sûrement relâcher un peu après. Mais je peux pas concevoir. Le Bayern n'a pas un début de saison si intéressant que ça en Bundesliga. Je pense, ils sont revenus au premier rang, si je ne me trompe pas, mais c'est pas pendant longtemps, c'était l'Union de Berlin. Là, donc, et puis, je vois pas avec Neymar, Messi, Mbappé qui sont en grande forme présentement, les trois. Mbappé peut-être pas au sommet, mais quand même, il va très bien. Je vois pas comment le PSG peut pas battre le Bayern. Bref. Donc, deux Bayern, un PSG dans ce cas-ci. Donc, c'est le fun. On est séparés dans plusieurs des confrontations. C'est intéressant. Fait que là, on est déjà rendu à 1h07. On voulait faire les classements, aller faire un tour des classements des 5 ligues, mais on va faire ça une prochaine fois parce que.
Mais écoute, je pense qu'on a temps un peu de jaser un peu d'Europa League parce qu'il y a un match-up qui très, très intéressant.
Ouais, Bayern-Manu, c'est vrai. Allons-y très rapidement. Barça-Manu. Allons-y très rapidement avec Tom en premier.
Ouais, ben écoute, c'est un match-up qu'on aurait aimé voir.
On aurait aimé voir ça en 2009.
Ouais, ben en 2009, ou qu'on aurait aimé voir ça.
En fait, on l'a eu en finale de Ligue des Champions. Avant,
oui. Mais on aurait pu avoir Ronaldo Messi, c'était pas du fait que Messi avait quitté pour PSG.
Est-ce que le Barça serait en Ligue Europa si Messi avait quitté le PSG?
Non, évidemment. C'est évidemment. Mais Barça qui essaie de racheter une campagne très décevante en RDC. Puis Manu qui commence encore une fois une saison assez difficile. Écoute, ça va être intéressant de voir deux équipes qui cherchent. Hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi au Mercato en janvier. On sait que Manu a plusieurs cibles intéressantes. Est-ce qu'il va se faire? Je ne sais pas. Mais du côté, je pense. Mais ça va être un match très difficile à prédire, je dirais. Je pense qu'il faudrait attendre le Mercato, puis après ça, il y a une prédiction de ce côté-là.
Ouais, ben moi, je peux en faire une tout de suite, je pense.
Ben, vas-y.
Je pense que je vais surprendre tout le monde, mais je crois que si Harry Maguire ne touche pas le terrain du côté de Manchester United va battre le FC Barcelone.
Ah, écoute, je serais pas prêt à dire qu'ils vont pas toucher le terrain, puisque Harry Maguire fonctionne très bien avec les Three Lions. S'il y a une bonne Coupe du Monde, c'est sûr que Ten Hag va être tenté de le faire jouer. C'est sûr, plusieurs personnes ont commis cette erreur-là. Solskjaer a commis cette erreur-là l'année passée après l'Euro. Plusieurs personnes commettent l'erreur de croire en Harry Maguire. Et je pense que ça va être encore le cas en février. Donc, Donc, je ne suis pas si sûr que ça, que Manchester United vont l'emporter. Mais bon.
C'est vrai que c'est extrêmement difficile à prédire, encore une fois, vu qu'on est encore très loin.
C'est encore très tôt. Il peut se passer
Il y a bien des choses qui peuvent se passer. Pour le moment, moi, j'irai avec le Barça. Je considère que c'est une meilleure équipe que Manchester United présentement. Ils concurrencent le Real présentement au sommet de la Liga. Donc, pour le moment, moi, j'irai avec Barça. Dembélé va bien, Lewandowski va bien. Puis l'équipe va mieux généralement, je trouve. Le Ronaldo a commencé à rejouer du côté de Manchester United. Ça en fait une distraction de moins. Mais quand même, pour moi, ça serait le Barça, mais c'est encore très loin.
Comment? Est-ce qu'il va quitter en janvier, par contre, Ronaldo?
Oui, ça se peut très bien qu'il quitte en janvier, effectivement. Autre chose à rajouter, messieurs? Je pense que là, on voulait faire nos choix, nos prédictions pour le gagnant de Coupe du Monde, mais il est tard, donc on va garder ça pour une autre fois. On va garder ça pour une autre fois. Autre chose à rajouter? Mot de la fin, quelqu'un? Non?
Ben, écoute, merci de nous avoir écoutés. Très hâte de
partager ça. J'ai jamais entendu un mot de la fin aussi original. Vraiment, on est très content que le Jason Balleron parte enfin, soit enfin d'actualité, fonctionne enfin. On va avoir d'autres collaborateurs, je pense. C'est Nicolas Charon et Jacob qui s'étaient proposés.
On va voir
leur activité, si éventuellement ils vont vraiment en faire beaucoup. Mais...
Peut-être des nouveaux du Club École qui vont venir.
Peut-être. On a des nouveaux membres du Club École. Peut-être que certains seront intéressés à faire Jason Ballon Rond. Bref, il faut absolument plugger aux Premières Loges. Aux Premières Loges, avec la Coupe du Monde qui s'en vient dans 10 jours, puisqu'on est quasiment rendu le 10 novembre, là, et quand l'épisode va sortir, ça va être encore plus proche. Mais la Coupe du Monde s'en vient dès le 20 novembre, et à chaque épisode, quotidiennement, le podcast aux Premières Loges, c'est ça que ça fait, c'est qu'on suit un gros événement sportif quotidiennement, donc avec un épisode à chaque jour, à chaque jour qu'il y a des matchs, en fait. Donc voilà, on est très content de repartir la machine là-dessus.
Ça devrait commencer la semaine prochaine.
Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, on fait des épisodes sur les différents groupes. Voilà, donc allez écouter ça. Et puis, ça va nous demander beaucoup de travail puisqu'on va être en fin de session à travers tout ça. Mais on va être là, on va être au rendez-vous. Ne vous inquiétez pas. Ça va même être le retour de Étienne Boutillier, membre fondateur du Club École, qui revient, qui va être aux Premières Loges avec nous. Donc, on a bien hâte d'être avec Étienne pour ce grand moment qu'est la Coupe du Monde. Et voilà, c'est ce qui conclut ce premier épisode de Jason Ballon Rond. Extrêmement content, encore une fois, qu'on l'ait finalement fait, les gars. Thomas Lafont, Doual Ibrahim, merci beaucoup pour ce premier épisode.
Grand plaisir.
Vraiment. C'était Olivier Prince-Grelot à l'animation. Je vous souhaite une bonne soirée et une très bonne Coupe du Monde très bientôt.